Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Chandra est née dans une étable. Difficile de ne pas immédiatement faire le lien avec notre saint chrétien. Une prédestination, un signe de l'universalité spirituelle au-delà des croyances. Dans tous les cas, c'est pour nous occidentaux baignés dans le christianisme un clin d'œil amusant du destin. Cette interview de Regarde ailleurs se divise en trois parties. Il fallait prendre le temps de la rencontre. Ram Chandra avec moi. Aujourd'hui, on prend le temps de parler un petit peu de ton parcours, de ton histoire personnelle, de ton itinéraire personnel. Mais tout de suite, là, je t'ai récupéré devant le Matrimandir. Donc, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu as déjà fait ce matin?
Ah, je suis venu pour méditer au Matrimandir. Parce que la méditation, c'est une nourriture pour moi. Sans la méditation, je ne suis pas en forme, quoi. Alors, pour se profiter mieux la vie, pour se profiter la nature, la création, si on médite, on comprend mieux toutes les choses.
Et pourquoi tu viens méditer ici au Matrimandir? On va peut-être un peu présenter le Matrimandir. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que c'est que le Matrimandir? Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi de venir ici pour méditer?
Pour moi, j'ai des liens personnels aussi, parce que quand il y avait quatre piliers sur qui le Matrimandir reste, quand au début, dans la construction, et je travaillais là aussi, et dans les années 80, alors 1980 bien sûr, et voilà, alors, et aussi il y a une atmosphère à l'intérieur qui nous aide de se concentrer, quoi. Il y a un pouvoir, une énergie qui est automatiquement aidée pour cette concentration et pour la méditation. C'est pour ça que je viens.
Donc toi, tu as participé à la construction du Matrimandir.
Voilà, exactement, voilà. Oui, j'ai participé, oui. Je venais.
Alors, on n'a pas dit encore dans cette émission où on est. On n'a pas dit non plus que c'était que le Matrimandir. Donc là, on est au sud de l'Inde, près de Pondichéry, dans une communauté qui s'appelle Auroville. Et en son centre, il y a cette sorte de boule dorée qu'on appelle le Matrimandir. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce qu'est le Matrimandir, sur l'histoire de ce lieu où je te rencontre aujourd'hui?
Alors, Auroville, c'est une communauté que la mère et Sri Aurobindo qui ont créé, leur vision de yoga était une communauté mondiale qui travaille pour la terre, qui travaille pour l'spiritualité ou l'évolution de l'humanité pour ne pas rester dans la condition ce qu'on a maintenant. Alors pour faire atterrir les pouvoirs spirituels, le pouvoir supramental. Alors pour ça, on doit travailler dur, sans aucune, comment dit-on, rémunération. Alors, on consacre leur vie. Alors quelqu'un qui veut vraiment pour avoir cette vie, alors la mère, elle a créé cette organisation ici, cette communauté qui s'appelle Auroville. Et au centre de cette communauté, le Matrimandir, cet temple doré qui est là. Alors ça sera un centre comme dans notre cœur, l'âme est notre centre de notre cœur. Alors Matrimandir est l'âme de Auroville. Voilà.
Et donc c'est un lieu où tu viens te recueillir pour méditer. Donc comme tu le disais, la méditation, c'est quelque chose d'essentiel et d'important pour toi. Ramchandra, comment est-ce que tu es arrivé ici à Auroville? On va s'intéresser un peu à ton histoire, à ton parcours, parce que tu n'es pas indien, tu viens du Népal. Donc on va revenir longtemps, longtemps, longtemps en arrière et tu vas nous raconter ton histoire, ton enfance là-bas dans les montagnes de l'Himalaya et l'itinéraire qui t'a amené ici jusqu'au sud de l'Inde, à Pondichéry.
Alors moi je suis né au Népal, ouest du Népal, dans une très pauvre famille dans les Himalayas. Et j'étais le premier enfant de mes parents. Et il y avait 7 enfants après moi, et nous étions très pauvres. On n'avait pas assez de nourrir, loger, nourrir et habiter. C'était difficile, la vie était difficile. Quand j'avais 12 ans, j'ai réalisé que si je quitte la maison, ça sera mieux pour mes parents. Parce qu'ils travaillaient tellement pour nous nourrir. Et j'ai senti que maintenant, je suis assez capable de quitter Népal et gagner ma vie ou ma nourriture moi-même en Inde. Et voilà, il y avait des amis qui étaient venus en vacances à leur famille au Népal. Alors ils partaient, moi j'ai décidé de m'enfuir avec eux. Et j'étais en Inde.
Donc là, tu as 12 ans quand tu choisis de laisser la place finalement à tes frères et sœurs. Hein, tu comprends que ta famille n'a pas forcément d'argent pour te nourrir et donc tu fais le choix de partir.
Voilà, c'était la première chose, la première raison que je devais quitter la famille. Et aussi autre chose, comme il n'y avait rien et les gens qui venaient de l'Inde avec le savon parfumé, Et le thé, le sucre, tout ça dans les montagnes, ça n'existait pas. Alors quand je les voyais utilisant ça, par exemple quelqu'un qui prenait la douche avec le savon parfumé dans la rivière, alors j'avais envie d'avoir et laver avec le savon, mais Nous faisions avec d'autres, c'est-à-dire des sauces de poudre, des fois la farine, avec ça on prenait la douche. Alors voilà, mais qui ne donnait pas le parfum. Alors voilà, alors toutes ces choses-là m'attiraient à aller vers l'Inde.
Donc il y avait aussi cette curiosité, cette envie quand on a 12 ans de découvrir le monde. Tu avais compris à cette époque-là que le monde ne se limitait pas aux montagnes de l'Himalaya, à ton village. Tu avais envie d'aller plus loin pour découvrir le monde.
Parce qu'il n'y avait pas l'école. J'étais vraiment ignorant de ce qui se passait. Je pensais que le monde est seulement le Népal. Alors, comme on n'avait pas d'autres moyens, pas télé, pas radio, rien du tout à cette époque-là. Et dans les hautes montagnes, on était tellement éloignés, on n'avait rien. Alors, je pensais que toute la Terre est comme ici, où je ne savais pas, la Terre est tellement grande qu'il existait plusieurs pays, tout ça. Alors, mais seulement les gens qui venaient, eux, ils disaient, voilà, il y a les voitures, il y a les trains, il y a l'avion, tout ça. Des fois, bien sûr, je voyais l'avion qui volait en-dessus de ma tête. Autrement, je ne savais rien, rien du tout.
Il y avait des touristes qui venaient déjà trekker dans cette partie du Népal. C'était un endroit fréquenté par le tourisme ou pas du tout?
Non, non, non. Cet endroit-là, c'était un peu éloigné. Nous sommes encore ouest de Pokhara. Tourisme était plutôt à Katmandou et dans les régions de Pokhara, dans les Annapurna. Alors nous sommes un peu plus ouest du Népal. Je n'ai jamais vu un touriste là, quand j'étais petit.
C'est vers la région du Dolpo?
Juste en bas de Dolpo, oui.
Donc à 12 ans, tu fais le choix de partir. Donc dans ta tête, c'était aller en Inde, pas rester au Népal. Pourquoi l'Inde ? Est-ce qu'il y avait déjà cette notion de la spiritualité, de l'hindouisme, ou qu'est-ce qui t'attirait là-bas ? C'était juste cette curiosité de pouvoir te laver avec du savon ?
Ah, d'abord, première chose, comme je vous avais dit, que le Népal était un des plus pauvres pays. Et comme nous étions très pauvres et nous n'avions pas de moyens de nourrir bien, alors première chose, c'était gagner la vie, manger bien et peut-être aider la famille si je peux aider. C'était la première but pour aller en Inde. Il n'y avait pas d'autre but premièrement. Et puis, et je croyais aussi depuis mon enfance que ce qui se passera, ça sera bien pour la vie. Et voilà, je laissais partir, je ne pensais pas trop.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
À 12 ans, comment tu fais pour te nourrir, pour te loger, pour communiquer ? Parce que tu viens d'un village, je ne sais pas quelle est la langue que tu parlais, est-ce que c'était le népali à ce moment-là ? Peut-être une langue plus locale, parce que au Népal c'est multiethnique, hein, tu as les tamangs, les gurungs, les niwars, donc je ne sais pas quelle était ta langue. Et quand tu quittes ta vallée, ton village, comment tu fais ?
Moi je parlais népalais, seulement cette langue népalais, qui est proche de hindi, parlée en Inde. Et l'écriture sont pareilles. Quand j'étais en Inde, c'est-à-dire quand j'ai commencé, d'abord ce que je pensais que l'Inde est un endroit qu'on peut gagner l'argent, qu'on a assez de choses, beaucoup de choses que je n'ai jamais vues. Voilà, c'était une vision dans ma tête, comme on a la vision de paradis, mais on n'a pas vu la réalité. Juste les gens disaient, voilà, on trouve ça, ça, ça. Alors, j'avais dans ma tête cet paradis. Et puis, au début, c'était aussi quand j'ai traversé Népal, quand j'ai vu première fois les bicyclettes, motos, les voitures, le camion, le bus, c'était étonnant. Et puis, je n'ai jamais vu tant de monde dans un endroit. On était tellement en silence, en paix, dans la nature, les rivières, les cascades. Mais il y avait d'autres sortes de bruits que je n'ai jamais habitué. Mais je pensais que c'est ça la vie, vraie vie, avec toutes ces nouvelles choses. Alors comme j'étais avec les animaux dans la forêt, alors... Je voulais chercher un peu d'autres choses, quoi. Alors, la première fois, j'ai vu la nuit ne tombait pas, alors j'ai demandé. On était à la gare d'un train, et puis je demandais à mes amis, pourquoi la nuit ne tombe pas ici? Alors ils m'ont dit, regarde dehors, il y a la nuit, mais ici, il y avait l'électricité. À cause de l'électricité, il n'y a pas, on ne voit pas la nuit, la lumière. Alors voilà, c'était étonnant pour moi, première fois, voir l'électricité, puis tout est allumé. Voilà, alors ça m'a donné plus de courage. Oui, il y a quelque chose de bon qui va arriver. Et voilà, on a continué, première fois le train, beaucoup de choses, première fois. Première fois, la terre immense plat en Inde. Et puis, quand je suis allé à Nagaland, Dimapur, il y avait un endroit où j'ai dormi. Et toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Il y avait plusieurs bêtes qui me piquaient. Alors, les autres, ils couvraient leur tête et tout. Ils dormaient très bien. Mais moi, je n'ai pas pu dormir toute la nuit. Le matin, quand j'ai dit à mes amis que je n'ai pas pu dormir, il y a les bêtes qui me piquaient. Alors, ils m'ont dit que c'était les moustiques. Alors, je ne savais même pas le nom parce que dans les hautes montagnes, nous n'avions jamais les moustiques, tout ça. Alors, mon visage, mon corps était tout rouge et puis c'était chaud à cette époque-là, dans cette région-là. Je ne pouvais pas couvrir non plus. Alors, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à réaliser des choses. Et après, ils m'ont laissé dans un endroit pour travailler. D'abord, j'ai travaillé seulement pour la nourriture. Et après, j'ai travaillé plusieurs endroits parce que je n'aimais pas, je manquais mes parents, je manquais mes amis, je manquais les montagnes, les rivières, les cascades, les animaux des montagnes. Alors, mes amis, je voulais retourner, mais je n'avais pas d'argent. Alors, quand je n'avais pas d'argent, je n'aimais pas même le travail, ce que je faisais. J'étais vraiment malheureux au début. Alors, je voulais retourner, mais pas d'argent. Alors, j'étais obligé. Alors, des fois, je travaillais pour la nourriture, des fois, sans nourriture, balader et rester sous un arbre, dormir sous un arbre. Et quand j'avais faim, il y avait un ruisseau, j'allais descendre parce qu'il y avait des montagnes à Nagaland. Et je buvais de l'eau et encore comptais les voitures des camions des militaires qui passaient souvent. Et plusieurs fois, plusieurs jours sans nourriture. Et voilà, un jour, il y avait une vieille dame qui m'a donné une bonne nourriture et elle m'a dit, il y aura un jeep de militaire qui va venir, qui te demandera pour aller à militaire. Tu lui diras oui. Et voilà. J'étais, parce que cette dame, je ne sais pas cette dame, c'était un peu curieux. Parce que je croyais dans la mère divine. Alors, moi, je me disais pourquoi elle ne m'en nourrit pas. Alors, elle est, en sanskrit, on dit Annapurna, la mère divine qui est pleine de la nourriture, bonne nourriture. C'est elle qui nourrit toute la terre, tout l'univers. Alors, j'ai dit pourquoi elle ne m'en nourrit pas depuis six jours, j'ai aucune nourriture. Et voilà, elle était venue, une vieille dame qui m'a donné. Et j'étais tellement ravi d'avoir cette nourriture. Et je mangeais, j'avalais vite, j'avais tellement faim. Et après une minute, quand je regardais vers la direction où elle était partie, je ne l'ai vue pas, elle était disparue. Et après quelques minutes, il y avait un jeep de militaire qui était venu et ils m'ont dit si je voulais aller en militaire. J'ai dit oui. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que dans mon village au Népal, il y avait les tigres, les léopards qui mangeaient notre chèvre et les animaux. Alors j'ai pensé tout de suite, si je suis en militaire, j'aurai un fusil et quand j'irai au Népal, je vais tirer tous les léopards et les tigres pour sauver mes animaux. Avec cette idée, j'ai dit oui et je suis monté sur le jeep et puis j'étais en militaire.
On est en quelle année là? Tu as quel âge quand tu rencontres ce militaire?
Presque un an après, j'avais 13 ans. Parce que comme j'étais un peu grand, alors à cette époque-là, il y avait beaucoup de batailles avec Chine, et l'Inde avait eu beaucoup de batailles avec Chine et Pakistan. Alors, il acceptait même les jeunes, mais on devait mentir l'âge. Alors j'avais dit 16 ans, et voilà, à l'âge de 13 ans, j'étais là. Et voilà, mais au militaire, j'étais tellement content, parce qu'il y avait bonne nourriture, assez de nourriture, tant que je peux manger, et tellement bonne nourriture, beaucoup de fruits, beaucoup de viande, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai dit, mon Dieu, on parlait de paradis. Voilà, c'est ça le paradis ici. Alors, surtout, j'aimais beaucoup les fruits qui étaient dans les boîtes. Alors, l'ananas, les pommes, tout ça, coupé avec du jus sucré.
Donc, les premiers petits plaisirs de la vie, c'était vraiment ça, c'était pouvoir manger à sa faim.
Oui, exactement, parce que je n'avais jamais vu avant, je n'avais jamais goûté une pomme, je n'avais jamais goûté quelquefois les goyaves quand j'étais petit, pas des bananes dans les hautes montagnes. Et puis, alors, là, tout est là. Alors, c'était vraiment tellement de choix. Alors, c'était quelque chose.
J'ai fait chauffer de l'eau, je vais le chercher. On va boire un thé au Tulsi, qui est une plante ici, hein, qui pousse localement. Et on continue à écouter ton histoire, l'histoire de ta vie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc à l'âge de 13 ans, à l'âge de 12 ans, tu quittes les montagnes du Népal, de l'Himalaya, avec cette envie de découvrir le monde, avec cette envie de laisser aussi ta place à tes frères et sœurs, parce que tu es issu d'une famille très pauvre. Et commence toute une série de rencontres qui sont plus ou moins marquantes. Tu découvres aussi la faim, ce que c'est que d'avoir faim, les petits plaisirs simples de la vie. Tu me parles d'ananas, de fruits colorés qui rendent finalement la vie comme un petit paradis. Tu te lances dans l'armée, tu deviens militaire. Combien de temps tu vas rester dans cette aventure ? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui t'a emmené dans cette aventure-là, c'est cette idée de pouvoir protéger tes animaux dans les montagnes de l'Himalaya, pas du tout défendre ton pays.
Oui. D'abord, c'était mon but, quoi. J'aurais un Fuji et je vais sauver mes animaux. Mais après 2 ans, ce n'était pas le cas. Je n'aimais pas rester dans la militaire. Et puis, j'ai rencontré un sadhu. Et je me posais de me demander des questions. Qu'est-ce que je fais ici avec le Fuji? Je ne veux pas tirer des gens. Et puis, voilà, je ne veux pas battre. Ce n'est pas ma vie. Comme je suis un brahmin, alors le sadhu m'a dit, tu es un brahmin. Ce n'est pas ton dharma, son devoir de tuer quelqu'un ou battre contre quelqu'un. Ton dharma, ton devoir est de s'intérioriser, de méditer, de découvrir de soi-même, lire les Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, toutes les connaissances spirituelles.
Mais tu étais déjà familier avec ces connaissances, tu parles des Bhagavad Gita, tu parles des Vedas. C'est quelque chose dont on parlait dans ton village himalayen ou pas du tout? Et tu dis tu étais brahmine. Comment le sadhu t'a identifié comme un brahmine? Et qu'est-ce que c'est qu'un brahmine?
Brahmine, une caste par naissance, qui est une haute caste, considérée très haute caste, normalement, qui doit réaliser dans leur vie le brahman, c'est-à-dire le suprême. Qui envahit toute la terre, toute la création. Voilà, réaliser sa présence, son présence partout. C'était le caste.
Mais tu es né dans une famille de brahmines?
Voilà, oui, exactement. Alors, oui, on connaît un peu, mais quand j'étais en militaire, j'ai découvert beaucoup de choses parce qu'il y avait beaucoup de magasins qui venaient en hindi. Et je lisais, j'étais assez active quand j'étais en militaire. Je voulais vraiment avaler des choses après petit à petit, comme il y avait tellement de journaux, il y avait les journaux quotidiens, des journaux, des magazines de 15 jours, un mois, alors tout je lisais. Alors il y avait des articles sur différents sujets. qu'est-ce que c'est le yoga, méditation, le Veda, tout ça, là, ça m'a donné quelque chose supplémentaire. Quoi.
Tu as appris à lire à l'armée ou tu apprenais déjà à lire dans ton village de l'Himalaya?
Oui, j'ai appris là, dans la militaire, et je connaissais un peu l'alphabet Devanagari, qui est écrit en hindi et népalais, c'est pareil. Alors ça m'a aidé, oui.
Donc tu as profité de cette expérience à l'armée pour te nourrir et te remplir aussi de connaissances. Tu rencontres ce sadhu, donc on peut peut-être aussi dire ce que c'est qu'un sadhu, parce que là on parle de l'hindouisme, brahmine aussi, ça fait partie de l'hindouisme, les védas aussi. Donc les sadhus sont des gens qui ont fait le choix du renoncement, qui font une sadhana, qui font une sorte d'ascèse, c'est bien ça?
Oui, exactement. C'est-à-dire... où j'étais avec cette militaire, j'étais au Nagaland. Après quelques 6 mois, je suis allé à Arunachal Pradesh, au bord de Chine. Et après encore 1 an, je suis allé, cette militaire est déménagée à Calcutta, dans une grande ville. Alors là, dans le camp de militaire, juste à côté, il y avait un temple. Comme j'étais un dévot de la mère divine et Shiva, j'allais souvent. Alors un jour, cette sadhu, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais en militaire? Il m'avait demandé, bien sûr, de quelle caste j'étais. Je lui ai dit que je suis brahmine. Alors il a dit, tu ne dois pas rester dans la militaire. Il m'a dit que je devais vraiment... trouver moi-même intérieurement. Et ça, je sentais aussi moi-même. Ce n'est pas seulement lui m'avait dit, c'est pour ça que je voulais quitter l'armée. Moi-même aussi, je me demandais qu'est-ce que je fais ici, parce que je ne me trouvais rien qui était dans ma nature, quoi. Alors, je sentais aussi quelque chose qui manquait en moi. Alors, je ne savais pas c'était quoi. Mais je n'étais pas à l'aise là, alors soudain j'ai décidé de quitter l'armée, mais c'était difficile, ils ne me laissaient pas, ils m'ont donné quelques punitions, mais finalement j'ai dit je ne peux pas vivre, je ne peux pas rester ici. Et voilà, après j'ai quitté et je suis devenu un sadhu. Un sadhu veut dire quelqu'un qui renonce le monde et qui cherche la spiritualité. Qui essaye de découvrir soi-même, son âme et puis son esprit et aider toute la terre par une manière différente, c'est-à-dire par la méditation, par amenant la paix sur cette terre. Et voilà.
Les sadhus font partie d'une caste, sont brahmines ou pas forcément? Les sadhus, c'est hors caste?
Non, ils peuvent être n'importe quelle caste. Maintenant, il y a plusieurs sortes de sadhus, c'est-à-dire de plusieurs castes. Ils peuvent venir de n'importe quelle caste, mais toujours les brahmines sont plus adorés ou, comment dit-on, respectés, parce que c'est dans leur caste, dans leur sang qu'il y a cette spiritualité.
Et donc tu deviens sadhu, ça veut dire que tu portes la robe orange, c'est ça? Et tu commences à cheminer sur les chemins de l'Inde pour récupérer les offrandes. Le sadhu a un statut un peu particulier où il est respecté par les populations, par les gens, par les habitants.
Oui, ils sont très respectés les sadhus parce que les gens... qui vit leur vie ordinaire, ils pensent que si un sadhu vient dans leur maison, si on lui nourrit, et nous allons recevoir beaucoup de bénédictions, et puis le Dieu sera très content si un sadhu reste là, vit ici, et on lui donne bonne nourriture. Des fois, il donne une offrande d'argent, tout ça. C'est ça, dans notre culture, c'est ça. Alors nous considérons aussi, même, s'il n'est pas sadhu, mais il y a d'autres personnes qui sont venues, alors nous considérons comme un guest. En anglais, on dit guest. Alors s'il vient, il est dans la forme de Dieu qui est venu. Alors on doit adorer, on doit donner la meilleure chose qui est possible. Mais comme un sadhu vient, on vénère on donne beaucoup d'adoration. Bon, on lave les pieds, même on boit l'eau de laver de pieds, on purifie. Il y a des gens qui mettent cette eau partout, dans leur terre, dans la maison. Voilà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.